Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de DevOps avec deux invités, Emmanuel Bernard. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Julien Véan. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs No Limites Sécu sont Christophe Renard, Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Loïs Samin.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulot. Alors Julien, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour, alors je m'appelle Julien Véan, je dirige l'équipe CloudSec chez Mozilla. On s'occupe de la sécurité des services de Firefox, comme l'infrastructure de mise à jour, la gestion des comptes, le service de synchronisation ou encore le site des extensions. Mes spécialités sont principalement la cryptographie, je suis l'auteur des recommandations server-side TLS de Mozilla, et la sécurité des services en ligne. Et plus récemment, je suis l'auteur du livre « Securing DevOps » publié chez les éditions Manning.
Emmanuel ?
Ouais, alors moi je suis open sourceur aussi, je travaille chez Red Hat, je suis l'architecte plateforme pour tout ce qui touche à la data au niveau du middleware. Et je fais aussi un podcast en français, un petit peu moins hebdomadaire que vous, qui s'appelle « Les Cascodeurs » et c'est pour les développeurs, surtout autour de l'univers Java, la plateforme.
Alors, messieurs, DevOps, à part un buzzword, qu'est-ce que c'est ?
Je veux bien essayer de répondre. Le DevOps, c'est essentiellement une série de concepts qui sont issus des méthodes agiles et qui sont destinés à améliorer la gestion des infrastructures. L'idée principale, c'est de réduire le temps entre la publication de chaque version d'un logiciel ou d'un service, d'une part en automatisant les tâches de déploiement, ce que l'on appelle communément « infrastructure as code », et d'autre part en augmentant la collaboration et la communication entre les équipes de développement et les équipes d'administration. Donc c'est un terme un peu fourre-tout, on y retrouve quelques concepts clés, comme l'idée des pipelines d'intégration et de déploiement. Donc l'idée, c'est d'automatiser les étapes de test et de déploiement pour que à chaque nouvelle version d'un logiciel, en fait, on n'ait plus besoin que de cliquer un bouton et toutes les étapes de packaging et de déploiement sont entièrement automatisées.
Ouais, parce qu'en fait, au niveau, quand on faisait de l'agile, on prenait les gens du business, on prenait les gens des devs et on leur faisait des cycles courts, en tout cas quand on y arrivait. Puis après, il n'y avait rien qui était prévu pour le déploiement, donc ça pouvait être à l'ancienne, avec un déploiement tous les 3 mois, des lettres à signer pour aller à la prod. Donc là, l'idée, c'est d'aussi englober les gens jusqu'au bout, c'est-à-dire le déploiement, la prod et la maintenance de ce que vous mettez en prod.
Finalement, est-ce qu'on ne parle pas d'automatisation, de l'intégration jusqu'à la production ?
Ouais, c'est un des aspects en fait. Il y a plein d'aspects sur DevOps, c'est un petit peu fourre-tout, c'est pour ça que vous dites que c'est un petit peu buzzword, mais il y a. Il y a donc les approches agiles, il y a le fait qu'on puisse gérer l'infrastructure as a code, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour raccourcir les cycles. En fait, je crois que le principe, c'est vraiment essayer de raccourcir les cycles et de ne pas avoir à quelqu'un qui est, en gros, entre le chemin, entre ce que vous développez et votre utilisateur final. Donc, tout ce qu'on peut automatiser, on va l'automatiser pour ne pas avoir à se poser des questions au fur et à mesure du travail qu'on fait.
Et est-ce que ça concerne aussi la pré-production ? Concrètement, est-ce qu'avec le DevOps, on essaie de supprimer de la pré-production pour automatiser tout ? Ou on l'a toujours ?
Je pense que les concepts de pré-production, par exemple à Mozilla, on a 3 environnements. On a un environnement de développement qui est entièrement contrôlé par les développeurs, et on a un environnement de stage, donc de pré-production, et un environnement de production qui sont identiques. Et ce que DevOps permet de faire, ce qui était très difficile avant DevOps, c'est d'avoir une copie exacte entre l'environnement de pré-production et l'environnement de production, puisque ces deux environnements sont créés et gérés en utilisant les mêmes scripts, les mêmes outils d'automatisation. Donc en fait, c'est juste une variable à changer en disant je veux déployer en pré-production, je veux déployer en production, mais en dessous, c'est le même code, c'est la même configuration. Ça permet vraiment de tester à l'identique.
Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en virtualisant, t'as pas 3 environnements, t'en as N en fait, parce qu'un développeur va déployer son environnement pour tester une fonctionnalité sur laquelle il est en train de travailler, et peut-être qu'il corrige un bug en semi-parallèle, il va avoir un autre environnement qui est littéralement l'image parce qu'il va déployer ça sur le cloud interne ou AWS ou ce que vous voulez, pour tester ces deux choses qui sont séparées et qui arriveront en prod au moment où elles seront prêtes.
Et au fait, DevOps, ça vient d'où ?
Alors DevOps, ça vient d'une présentation qui avait été donnée en 2008 à une conférence agile par Andrew Clay Schaeffer et Patrick Debois, et qui, où il présentait l'idée d'appliquer la méthode agile pour l'infrastructure. Donc le terme DevOps n'existait pas à ce moment-là, mais les concepts d'automatisation des tâches de gestion des infrastructures étaient bien présents. Et rapidement après cette conférence, en 2009, en fait, la conférence DevOps Days a été créée essentiellement par Patrick Debois en Belgique, et c'est de là que le terme DevOps en fait s'est popularisé.
Oui, c'est un concept belge, le DevOps, alors.
Oui, je ne sais pas d'où Andrew Schaeffer vient, mais partiellement belge, ouais.
Aux États-Unis, ils appellent ça French DevOps. C'est comme les French fries. Ils n'ont pas tout compris.
Freedom DevOps. je pense que l'exemple intéressant pour DevOps, pour vraiment illustrer les bénéfices, c'est celui d'Instagram, qui, il y a quelques années, a été vendu à Facebook pour $1 milliard. Et ce qu'ils avaient réussi à faire, Instagram, c'est qu'ils avaient vraiment une toute petite équipe technique, quelques développeurs et quelques administrateurs. Et ils ont réussi à créer dans AWS une infrastructure énorme avec des millions d'utilisateurs en utilisant des techniques de DevOps. Donc en fait, ils redéployaient et géraient leur infrastructure avec du code en permanence. Et plusieurs fois par jour, ils redéployaient leurs infrastructures de production sans réutiliser les serveurs existants, mais en recréant des nouveaux serveurs à chaque fois avec la nouvelle version de l'application sur les nouveaux serveurs, testant ce qu'on appelle un test de canary, donc en testant un petit peu le nouvel environnement de production, et si ça passait, en bougeant le DNS vers le nouvel environnement de production. Ils faisaient ça plusieurs fois par jour, ils arrivaient à aller très 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 vite, et ils ont créé un business d'un milliard de dollars en fait. Et c'est là que les gens ont commencé à comprendre la valeur financière du DevOps.
Mais finalement, ce que tu nous dis, c'est que les administrateurs, qui sont quand même des feignants en puissance, sont les rois de l'automatisation et qu'on met l'automatisation en avant. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis qu'il y a des administrateurs, c'est-à-dire les années 50-60, quoi.
Je pense que la partie qui... Alors c'est sûr que ça, c'est un composant très très important de DevOps, hein, le fait qu'il y a quand même eu une époque dans les années 2000 où les administrateurs faisaient beaucoup de choses à la main, où il y avait très peu d'automatisation, et c'était aussi en partie dû au fait que les outils d'infrastructure n'avaient pas d'API, donc tu ne pouvais pas les contrôler à distance. Il fallait faire les tâches à la main, soit en cliquant sur une console VMware, ou soit en modifiant des fichiers de conf. Et l'idée de DevOps, c'est d'une part l'automatisation, mais d'autre part le fait que les développeurs et les opérateurs doivent travailler ensemble en permanence, en fait, et vraiment utiliser les mêmes outils. Les opérateurs participent à l'architecture de développement et vont potentiellement bouger certains de leurs outils dans la partie dev, et les devs vont aider à écrire du code pour gérer l'infrastructure également. Donc il y a une collaboration qui est plus forte.
Ouais, y a certains qui parlent de bouger de cette idée de je fais un projet, donc ça va me prendre 6 mois, 1 an, puis je vais le filer à la prod qui va après le gérer pendant X années, de transformer cette idée de projet sur lequel je travaille en produit. Et un produit, la différence, c'est que je travaille dessus, mais j'y travaille jusqu'à ce que je quitte ce job-là ou je quitte l'équipe. Donc il a... c'est pas genre je fais un one shot pendant X temps, c'est vraiment j'y travaille en continu, et puis une fois que c'est en prod, je suis encore responsable de ce qui se passe.
Je pense qu'il y a une différence par rapport à ce que disait JP aussi, c'est que le sysadmin à l'ancienne, il allait tripoter ses conf systèmes pour faire marcher l'application dans un environnement qu'il allait beaucoup ajuster, application par application, voire version par version. Si on fait du DevOps, on standardise au milieu, et l'admin, il est responsable de faire de la disponibilité et de mettre les ressources adéquates, et le développeur, il respecte une interface qui est standardisée. Ça change un petit peu.
Et puis un autre point, c'est que Avant, on filait le package qu'on donnait à la prod. Là, comme l'infrastructure, c'est du code, comme le code, c'est du code, en fait, tout va être dans un système de Git, par exemple, enfin, dans un système de gestion de source, ce qui fait qu'on va pas avoir peur de mettre en prod, notamment si on utilise ce qu'on expliquait un petit peu avant, cette idée de déploiement partiel pour certains utilisateurs et pas tous, parce qu'on va être capable de revenir en arrière littéralement d'un simple clic ou d'une simple commande quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Donc ça donne aussi de la liberté d'aller très vite, de se planter, de revenir en arrière très très vite.
Juste pour préciser, parce que tu dis l'infrastructure c'est du code, tu parles des fichiers de configuration par exemple ?
Un exemple concret, par exemple Ansible, on pourrait dire ça c'est mon déploiement qui décrit la machine cible sur lequel après je vais déployer mon appli, pareil avec des scripts. Donc voilà, mais peut-être que Julien,
on pousse ça, on pousse ça même encore beaucoup plus loin dans les environnements de DevOps qui utilisent aussi des infrastructures, ce qu'on appelle infrastructure as a service, donc AWS ou Google Compute ou Microsoft Azure, qui sont des infrastructures en fait qui sont contrôlées par des API. Donc quand l'opérateur ou le développeur veut un nouveau serveur, et bien il y a une API, on peut faire ce qui est vraiment une requête HTTP avec les paramètres qui vont bien pour demander au système de gestion de l'infrastructure de créer un nouveau serveur. Donc en fait, ce que l'on voit dans le DevOps un peu dans sa version complète, c'est qu'il y a d'une part le code de l'application et d'autre part le code de l'infrastructure. Et quand on veut créer un nouveau service ou qu'on veut mettre à jour un nouveau service, on fait tourner le code de l'infrastructure qui va créer des nouveaux serveurs, qui va créer des nouveaux répartiteurs de charges, des nouvelles bases de données automatiquement, les configurer automatiquement. Puis quand ces systèmes se démarrent, ils vont récupérer la dernière version du logiciel, utiliser des systèmes de gestion de configuration comme Puppet ou Ansible pour écrire leur configuration locale. Et quand ils sont prêts, généralement c'est la dernière opération manuelle, l'administrateur va bouger le nom de domaine public vers la nouvelle infrastructure qui vient d'être créée entièrement automatiquement. Et ça enlève complètement le besoin d'aller manuellement configurer un système ou manuellement déployer une application sur un système existant.
Est-ce que le DevOps a poussé l'émergence des conteneurs comme les Docker, etc., des choses comme ça, en disant pour pouvoir avoir plus facilement des machines, pour être plus flexible uniquement sur le code, etc., ou ça n'a pas vraiment de rapport entre le conteneur et...
Je pense que on a un petit peu tendance à mettre toutes les innovations récentes en termes de gestion des infrastructures sous le titre de DevOps. C'est pas forcément du DevOps partout. Les containers, ils répondent à un besoin, à vraiment deux besoins. L'un, c'est de pouvoir créer des systèmes rapidement qui soient assez légers. Donc c'est vrai qu'une machine virtuelle, c'est déjà assez léger à créer, mais c'est quand même pas de l'ordre de la seconde. Il faut quand même un peu de temps pour la créer et la configurer. Un container, c'est très très rapide à créer et à détruire. L'autre problème que l'on voit beaucoup, c'est que déployer des applications en utilisant des systèmes de package comme Deb ou RPM, c'est toujours assez compliqué. Et le container, en fait, il package tout ça dans une boîte qui est très très simple à prendre d'un système à un autre et à faire tourner sans que l'opérateur ait besoin d'avoir toutes les dépendances bien gérées. Donc la gestion des containers, c'est à mon avis, c'est plus une solution à un problème de gestion des dépendances. Où je voyais beaucoup d'opérateurs qui essayaient de créer des RPM et s'arracher les cheveux sur quelle version de Python installer ou la version d'OpenSSL qui n'est pas la même entre le système de dev et le système de prod.
Et puis dans le système de container lui-même, c'est juste une machine unique, mais en fait là où tu es plus en mode déploiement automatique, c'est avec du Kubernetes ou du Docker Swarm qui sont des métasystèmes par-dessus Docker pour déployer.
Ouais, il y a un peu les trucs qu'on appelle plateforme as a service qui vont vous aider sur la partie technique un petit peu du DevOps. On n'a pas encore parlé trop d'intégration continue, de déploiement en continu, etc. Mais il y a plein d'outillages qui vont arriver et les containers, ça va peut-être fluidifier ça encore. Ça ne veut pas dire que si vous utilisez ces outils, vous êtes DevOps, sinon vous faites un peu comme Monsieur Jourdain. Mais ça va éviter que vous ayez des obstacles parce que votre infrastructure, elle est peut-être qu'elle c'est pas de l'infrastructure as a service et du coup quand vous appelez l'API, en fait ça appelle Bob qui est derrière qui va commander un serveur. Donc là vous êtes
Alors, avant de parler d'intégration continue, qu'est-ce que ça implique tout ça pour les équipes dev et pour les équipes sécu?
Bah, c'est génial, tu peux pousser les patchs en live en quelques minutes, si j'ai bien compris.
Bah, c'est clair que c'est la plus grosse implication du DevOps. C'est un gros bénéfice pour la sécurité, puisque ça permet de mettre à jour des infrastructures très rapidement. Et on le voit très souvent quand des vulnérabilités dans les dépendances demandent des mises à jour de système, ben les infrastructures qui sont gérées à la main, il leur faut du downtime sur le week-end. Généralement, ça prend une semaine ou deux. Et les infrastructures DevOps, ça font ça en une heure, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est le premier bénéfice. L'implication peut-être la plus difficile à intégrer pour les équipes sécurité, c'est un changement de technologie qui est très fort. Donc on n'a plus vraiment cette idée du bon vieux data center avec les switches et les routeurs et les IDS, et on peut contrôler jusqu'aux couches les plus basses de l'infrastructure. C'est vrai que dans DevOps, on a beaucoup d'abstractions. Par exemple, dans AWS, il n'y a pas vraiment de contrôle du réseau. Tout est contrôlé par AWS, donc il n'y a pas vraiment moyen de mettre un IDS. Il n'y a pas vraiment moyen de faire du filtrage entrant. Il y a moyen de faire du filtrage sortant, mais c'est compliqué. Donc pour les équipes sécurité, généralement, les outils DevOps, ça veut dire réinventer beaucoup de techniques qu'on utilisait au cours des 15 dernières années, qu'on a appris à perfectionner, mais qui ne marchent plus dans les nouveaux environnements, quoi.
Et tu dis qu'Amazon, il n'y a pas d'IDS, mais il me semble qu'ils proposent un WAF.
Et tu peux faire dépendre de spam,
une sorte de site.
C'est nouveau, ça. Oui, effectivement, ils ont un service de WAF qui selon le taux d'usage des load balancers, peut être très, très coûteux. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est sur la liste des trucs à essayer. Ouais. Mais c'est du WAF, donc c'est de la requête HTTP, c'est pas du niveau réseau, quoi.
Mais je crois qu'en fait, ce qui change fondamentalement, c'est que tu peux plus faire la sécurité en dehors du pipeline. Parce que quand tu as le code qui change tous les jours, voire toutes les heures, ça ne sert à rien de faire un pen test, par exemple. Ou ça ne sert à rien d'essayer d'avoir un WAF avec des règles statiques, en sachant que les développeurs ils vont aller changer les endpoints de l'application quasiment toutes les heures. Donc en fait, il faut qu'ils écrivent les règles de WAF dans le même git que celle où ils poussent le code pour que ça continue à fonctionner.
Bah, pas nécessairement, parce que si tu fais de la sécurité négative, tes règles ne changent pas, en fait. Hein.
Oui, d'accord, si tu bloques l'accès à admin.php, ok, mais tu ne peux pas
attraper quelque chose. Non, mais si tu l'empêches, par exemple, si tu essaies de limiter les risques sur de l'injection SQL, du cross-site scripting, etc., tout ça, c'est générique, quoi.
Alors, sur l'aspect technique, c'est vrai que les contrôles qu'on avait avant marchent toujours. Après, il y a l'aspect culturel de DevOps qui est très important aussi, cette idée que les équipes doivent collaborer plus fortement. Donc entre développeurs et opérateurs, c'est assez clair qu'il faut qu'ils travaillent ensemble, qu'ils utilisent les mêmes outils. Pour les équipes sécurité, il y a de gros bénéfices à intégrer cette logique aussi, et plutôt que d'essayer de mettre des boîtes WAF devant toutes les infrastructures et de gérer ça un petit peu dans leur coin, plutôt que de faire ça, d'aller travailler directement avec les équipes de dev, d'intégrer la sécurité directement dans les applications. On le voit, par exemple, plutôt que de faire du filtrage sur du WAF, on peut faire du filtrage directement dans les routeurs des applications en Node.js ou en Python. Et ça permet de créer une culture où l'équipe sécurité, plutôt que d'être détachée, elle fait vraiment partie du cycle DevOps, en fait. Et les développeurs sont impliqués avec les équipes sécurité, et l'équipe sécurité n'a pas besoin de tout gérer, quoi. Donc il y a cette idée de collaborer plus fortement.
C'est ce qu'on appelle le SEC DevOps, non?
Encore un buzzword. Si je vous dis tous les deux les quatre mots suivants, est-ce que vous pensez que c'est un bon résumé? Compétences, tests, supervision, automatisation.
Bah, compétences, c'est pas spécifique à DevOps, quoi. Tu fasses, t'as besoin de compétences pour.
Alors quand t'es chez Google, peut-être, mais je pense qu'on peut en discuter sinon par ailleurs.
Bah, en fait, ce qui est intéressant, bon, il y a peut-être collaboration à ajouter, mais ce qui est intéressant sur la compétence, c'est qu'en fait, DevOps, ça permet aussi de travailler avec des gens qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences sans forcément se tirer une balle dans le pied, parce que ça permet d'avoir des gens qui ne connaissent rien, par exemple, au niveau aux couches les plus basses de la gestion de l'infrastructure, mais qui connaissent suffisamment de AWS ou de Heroku ou de Google Compute pour gérer leur infrastructure. Et comme tout est vraiment géré par l'infrastructure, par le AWS, Amazon ou Google, et ben les compétences n'ont pas besoin d'être en interne.
Ouais, et puis il y a... Alors, quand on le fait bien, on devient une équipe qui délivre ce fameux produit. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, on est plus engagé, donc c'est pas... j'ai fait mon dev et maintenant je le passe à la prod et puis... Et puis je vais rentrer tranquille le week-end. On a tous potentiellement un pager. On va peut-être tous faire un peu de ops. Peut-être que le ops va peut-être faire un peu de dev pour corriger, etc., etc. Donc il y a un côté responsabilisation. Par contre, le risque, c'est qu'il y a plein de gens qui disent bon, allez, on est DevOps. Et puis bon, les ops, ça coûte cher. Donc en fait, on est les devs. Vous savez écrire des petits scripts. Où vous savez appeler sur AWS et puis hop, c'est parti, vous êtes DevOps. Et là, ça peut être compliqué, enfin, ça peut être le drame, quoi.
Tu veux dire qu'il ne faut pas donner le mot de passe-route aux développeurs ?
Ouais, je crois que c'est la règle.
Bah, en fait, je dirais que ça dépend des développeurs. Nous, on a, je le vois chez Mozilla, on a. C'est plus une question d'expérience et de maturité. Bon, alors, quand les équipes sont assez grosses, c'est assez facile d'avoir une équipe d'Ops qui soit dédiée à ça et qui peut gérer vraiment l'infrastructure et qui est route partout. Souvent, ce qu'on voit dans les équipes DevOps, c'est qu'il y a les développeurs seniors, ceux qui ont vraiment de l'expérience et qui savent ce qu'ils font, qui vont avoir accès route à l'infrastructure et qui vont, comme ils font partie du produit, comme il y a beaucoup de collaboration, ça pose de problème à personne qu'ils aillent en production, qu'ils aillent accéder au système pour débugger. Mais l'autre chose aussi, c'est que l'accès route en DevOps, il n'est pas aussi utile qu'il l'était avant, parce qu'en fait, les systèmes sont éphémères. S'il y a un problème, on redéploie une nouvelle infrastructure, on ne réutilise pas les anciens systèmes. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin d'aller, il n'y a plus autant besoin d'aller se connecter en route sur les systèmes pour débugger, quoi.
Mais est-ce que tu forces, tout changement, tu le forces pas par du code ? Parce que si tu dis j'ai accès route, alors soit tu fais de la lecture seule, ok ? Mais si tu te mets à changer la machine, alors déjà, ça peut durer que 5 minutes parce que la machine va peut-être être redéployée différemment. Puis ensuite, personne n'est au courant, tandis que si tu l'as codé dans le Git et que tu redéploies ce truc-là, au moins ça a été logué et on sait pouvoir revenir en arrière. Vous faites toujours comme ça, j'imagine ?
Ouais, il n'y a pas de changements locaux. Tout est fait dans Git et tous les déploiements utilisent en fait la branche master du Git pour que ce soit pour Puppet ou que ce soit pour AWS CloudFormation ou que ce soit le code de l'application, quoi. En fait, maintenant chez Mozilla, enfin pour les services de Firefox spécifiquement, on a cette idée de Dockerflow. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est les développeurs sont en charge de leur application. Ils vont avoir donc leur source control sur Git et ils vont utiliser un système d'intégration continue pour créer un container Docker de l'application. Et le système d'intégration continue, donc ça peut être CircleCI, ça peut être TravisCI, on en a un en interne qui s'appelle TaskCluster, va créer le container et l'envoyer chez Docker Hub pour l'héberger. Et après de l'autre côté, donc du côté de déploiement, on a Jenkins qui va récupérer, qui va créer l'infrastructure, donc les serveurs d'Amazon et tout ça, et qui va dire au serveur bah, allez récupérer le Docker container depuis Docker Hub pour le faire tourner localement. Donc on a cette partie vraiment de collaboration entre les développeurs qui non seulement créent l'application mais aussi créent le container de leur application et les opérateurs qui sont chargés de le faire tourner en fait. Donc dès qu'on fait un changement, on repasse par toutes ces étapes là, tout ce pipeline en entier, quoi.
Mais ça crée quand même pas mal le point d'entrée dans le système. Enfin, ce que je veux dire, quels sont les contrôles qui sont en place si moi je fais un git push tête de mort.png, est-ce que j'arrive à tout défacer en 5 minutes ou...
Potentiellement, ouais. Donc ça, en fait, ça fait bouger les problématiques de ce qui avant était vraiment un accès à l'infrastructure pour aller changer l'application ou son fonctionnement. Maintenant, on s'ouvre à une surface qui est plus grande parce qu'on s'ouvre à tous les prestataires externes qui font partie du pipeline de DevOps. Donc que ce soit GitHub, que ce soit CircleCI, TravisCI ou AWS ou Docker Hub ou quels que soient les autres outils.
Particulièrement à Jenkins, il n'a pas un historique de sécurité en sa faveur. Si tu exposes tes interfaces Jenkins sur Internet, t'es mal.
J'ai deux questions. La première, c'est à propos du code et comment on analyse le code. Est-ce qu'on le fait au niveau de l'IDE du développeur? Est-ce qu'on le fait également plus tard? Et la deuxième, c'est peut-être vous n'êtes pas impacté directement, mais beaucoup de grandes entreprises travaillent avec des prestataires aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir justement ce DevOps avec une entreprise tierce? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment être intégré?
Je vais faire la première peut-être, et puis je vais laisser Julien faire la deuxième, et ça, je vais commencer à répondre de toute façon. En fait, dans ton... Alors déjà, tu fais pas dans l'IDE, enfin tu peux l'avoir dans l'IDE aussi, mais on veut tout automatiser. Donc tes tests de qualité, tes métriques de code, si c'est ce genre de choses que tu apprécies ou que tu veux vous suivre, elles vont faire partie du pipeline. Alors, plutôt au début, parce que ça va être un outil pour les développeurs pour dire bah tiens, je suis en dessous de ma métrique et du coup il faut que je retourne travailler avant que ça puisse aller à l'étape d'après. Mais ce qui est important, c'est que le build il est automatisé. Tous ces tests-là qu'on veut en tant qu'équipe avoir, ça peut être un test de perf, ça peut être un test de qualité statique de code, ça peut être peut-être un test pour vérifier que le site n'est pas défacé en regardant juste avant la prod. Tout ça, tu vas le mettre dans ton pipeline, donc il est systématisé. Il est automatisé, donc voilà, il y a plein de choses qui... ne jamais avoir quelque chose qui est testé à la main par quelqu'un, ou le moins possible.
Ce que je rajouterais à ça, c'est qu'on commence aussi beaucoup à mettre de tests de sécurité directement dans l'intégration continue en fait, qui est gérée par les développeurs. Par exemple, quelque chose qu'on a fait assez récemment, un des gars de mon équipe est Simon Bennett, qui est le lead développeur de Zap Proxy. Et ce qu'on a fait avec Zap, c'est qu'on l'a mis dans un container Docker et on l'utilise pour faire ce qu'on appelle un test de baseline. Donc on teste juste quelques contrôles de sécurité spécifiques des applications. Par exemple, la présence d'un content security policy, donc pour un header de CSP, ou HSTS, HPKP, les X-Frame Options, enfin tous les trucs qu'on aime bien mettre dans les applications web. Et on fait tourner ça directement dans CircleCI ou TravisCI, donc qui tourne à chaque pull request de GitHub. Ce que ça fait, c'est que quand les développeurs mettent un patch et que la pull request tourne, elle fait construire son container Docker en localement, on fait tourner le container Docker directement et on utilise Zap pour scanner l'application directement dans CircleCI. Et en temps réel, en fait, avant même que le patch soit intégré dans le code, on sait que tous les headers de sécurité sont en place. Et l'idée principale, c'est qu'on ne fait pas ces tests-là en dehors du pipeline, on les fait directement dans le pipeline des développeurs. Donc on n'a pas créé un second process pour faire nos tests de sécurité, on essaie de s'intégrer directement dans ce que les développeurs utilisent tous les jours, quoi.
Donc ça permet de gérer la sécurité d'un niveau plus bas en fait que la sécurité applicative.
Oui, et puis ça permet surtout de réduire, ça nous permet en équipe de sécurité de créer des tests et ensuite de les donner aux développeurs et à partir de là ils en sont un peu responsables. Ils savent que ça doit faire tourner correctement, donc il y a une notion de confiance, toujours on en revient à la collaboration, et ça permet d'éviter que nous, quand on fait nos scans réguliers toutes les semaines, on doit aller créer ou envoyer des emails à droite à gauche pour dire oh, bah, tiens, j'ai fait mon scan, il manque cet header là, est-ce que tu veux bien le réparer? Non, dans le fait de l'intégrer directement dans le pipeline, ça nous permet de dire, bah, avant même que ce soit en pré-production ou en production, on le voit qu'il y a un problème et qu'il faut le gérer.
Donc Christophe, tu voulais réagir?
Oui, ces tests de sécurité, finalement, ils sortent d'où? Parce qu'à l'ancienne, sur de la sécurité d'application, on fait une analyse de risque, on sort des exigences de sécurité, et en face des exigences, on va mettre des tests. Comment est-ce que je vais faire ça, moi, dans mon DevOps, hein?
de la même façon qu'on le faisait avant, ça n'a pas changé. Encore une fois, bon, chez Mozilla, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit framework d'analyse des risques que l'on fait tourner au début des projets. Donc dès qu'il y a un nouveau produit qui va être créé ou qu'un produit qui est mis à jour de manière importante, eh bien, on fait cette analyse de risque. C'est assez rapide, c'est assez léger. Et on fait des recommandations sur les types de contrôles que l'on veut voir en place. Donc ça peut être... bon, alors en général, on veut toujours que les applications aient un certain nombre de headers HTTP en place, comme le CSP ou HSTS, mais en plus de ça, on peut demander des choses assez particulières. Et ce qu'on va faire, c'est que l'équipe sécurité, souvent, va essayer d'écrire des tests pour ces contrôles en particulier, donner les tests aux développeurs et dire, bon, bah voilà, vous allez écrire le code, mais on a écrit les tests. Donc on a cette idée qui est un peu similaire au Test Driven Development, TDD, qui est d'écrire les tests d'abord, et puis ensuite d'écrire le code. Les tests vont ne pas passer jusqu'à ce que le code soit écrit, mais ça permet d'avoir vraiment l'assurance que les tests sont présents et que les contrôles sont en place. Et on appelle ça Test Driven Security. Donc il y a toujours cette idée de... Parce que dans le modèle de développement des applications, on a l'analyse du risque au départ, on fait les recommandations de sécurité, on travaille avec les devs, et puis après, pour contrôler que ce soit bien mis en place et que ça reste en place, on écrit des tests et on les met dans le pipeline.
Alors, c'est ça l'intégration continue ?
C'est ça l'intégration continue, ouais. Ça va un peu plus loin, l'intégration continue, mais oui, c'est cette idée en permanence, refaire tourner les tests contre l'application pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression, pour s'assurer que tout passe en accordance avec la spécification.
L'intégration continue, plus généralement, c'est... en gros, à chaque commit, mon build va tourner. Et si on pousse, vu qu'on l'a, on a maintenant un pipeline qui va jusqu'à aller en prod, en fait, tant qu'il passe et qu'il est vert, il va dans l'étape d'après et ainsi de suite. Si ça devient rouge, et ben, ça s'arrête, quelqu'un est notifié et on y retravaille. Mais idéalement, en fait, c'est pour ça que c'est en continu, c'est que littéralement, une fois qu'on est rentré dans le pipeline et si tout va bien, et c'est pour ça qu'on veut vraiment automatiser, systématiser tous les tests possibles et imaginables. Si tout est vert, sans intervention humaine, t'es en prod potentiellement.
Et sur la deuxième question, alors sur la possibilité d'avoir des prestataires extérieurs dans le pipeline, ça vous semble jouable ou c'est trop compliqué? Il faut vraiment que les équipes soient intégrées et travaillent ensemble. Il y avait Amazon qui avait parlé d'un truc, les deux pizza team, là. C'est quoi ce truc là?
Alors c'est deux questions ça, mais là, alors pour la première, je pense que c'est une vraie question, je suis pas sûr qu'on ait vraiment la réponse. Ce que tu peux te dire, c'est... En fait, tu as deux approches. Soit tu as confiance dans tes prestataires et à ce moment-là, tu rentres vraiment dans une approche une seule équipe et tu n'es pas au forfait, tu as vraiment quelqu'un qui est embarqué dans l'équipe et à ce moment-là, tu es dans ce qu'on a décrit. Soit tu leur fais pas confiance et là, ça va être plus compliqué parce que ce que tu vas peut-être faire, c'est un pipeline des ce que tes prestataires te font, qui t'arrive vers toi et après, il y a une vérification... Donc tu peux imaginer un pipeline où certains font une partie du job, c'est envoyé dans un Git, toi tu as accès à ce Git-là pour, de manière automatisée ou pas d'ailleurs, mais pour aller aux étapes d'après qui ne sont pas visibles du prestataire. Mais là, tu es dans la perte de confiance, tu vas ralentir le temps entre le code qui a été écrit et la prod, si tout va bien. Donc là, tu t'éloignes un peu de l'objectif.
Ouais, c'est pas quelque chose que tu recommanderais toi.
Bah, je pense que si tu es dans cette stratégie-là, je pense que t'es potentiellement pas prêt. Il y a peut-être... un truc qu'on en parlera peut-être après, mais on fait pas DevOps du jour au lendemain, quoi. C'est des petites étapes à avancer. Donc tu peux commencer avec l'intégration continue, tu peux commencer avec l'infrastructure as a code doucement, et petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu te rapproches de ça et ça va peut-être changer ta mentalité et ton approche de travail. Et la deux pizza team, c'est simple, c'est plus il y a de monde dans une équipe, plus c'est compliqué en termes de communication. Donc la taille idéale, c'est c'est en gros deux pizzas qui permettent de faire bouffer. Enfin, c'est le nombre de gens qui peuvent bouffer autour de deux pizzas. Voilà, c'est ça l'approche.
Deux personnes normalement.
Ouais, autant c'est des pizzas américaines, c'est pas des pizzas.
Il n'y a pas grand monde dans mon équipe. Hein.
Ouais, sur la collaboration. Ce qui est intéressant, c'est, enfin, comme le disait Emmanuel, c'est vraiment une question autour de la confiance. Nous, on le voit sur, comme à peu près tous nos services, même sont open source, on a des contributeurs externes. Et donc, on doit forcément faire confiance à ces contributeurs externes, d'une manière ou d'une autre. Mais dans DevOps, il y a aussi cette notion d'agile qui recommandait déjà de faire des code reviews, de faire de la vérification du code avant que ça passe en production. Et ça permet aussi d'augmenter la confiance. C'est-à-dire qu'on n'autorise pas les changements qui viennent d'une seule personne. On s'assure qu'il y a une seconde personne qui vérifie tous ces changements. Et ça s'applique non seulement sur le code de l'application, mais aussi sur le code de l'infrastructure. Par exemple, si quelqu'un va aller changer le nombre de serveurs sur un service particulier ou va aller changer la configuration d'un fichier quelque part, ça va être un patch, ça va être une revue de patch. Et là, on peut très bien avoir des contributeurs externes, des prestataires qui écrivent les patchs et des gens en interne qui revoient les patchs et qui les approuvent. Donc, c'est aussi possible.
Pour zoomer un tout petit peu là-dessus, donc tu fais une modification, t'envoies, alors si t'es sur GitHub, ça s'appelle une pull request, et quelqu'un d'autre va venir pour regarder si ça paraît correct, ça paraît pas correct. La pull request, quand toi tu la proposes, il y a peut-être un serveur Jenkins qui va écouter ça, qui va lancer les tests dès qu'il la reçoit, d'accord ? Tu vas avoir la notification dans ta pull request en disant les tests passent pas. Comme ça, le reviewer, il a pas à se dire tiens, faut que je lance les tests pour vérifier. Non, ils ont été lancés. Soit il les attend, soit en général, de toute façon, il arrive, il saute pas non plus sur la pull request dès qu'elle arrive. Donc il a déjà le résultat, il a déjà un premier niveau de confiance et ensuite il va pouvoir se focaliser sur le changement et faire son analyse d'impact.
Mais dans ce genre d'environnement, est-ce que finalement la sous-traitance entre plusieurs équipes, ça marche pas mieux horizontalement en découpant les grandes applications en plusieurs en microservices où chacun est finalement en parallèle plutôt que de le faire verticalement où il y aurait des étapes qui seraient sous-traitées les unes derrière les autres ?
Oui, je pense qu'il y a toujours un petit peu les deux. L'idée de microservices. Elle est un petit peu parallèle à l'idée de DevOps. Elle utilise beaucoup les techniques de DevOps pour les déploiements, pour la gestion des applications, les cycles de développement qui soient courts. Après, l'idée, c'est que quand si on prend une infrastructure complète, donc qui est faite de plein de petits services, ou enfin de services de petite ou de moyenne taille, il est assez facile de redécouper l'infrastructure et de redécouper les domaines de responsabilité une fois que tout utilise DevOps en fait. Donc on peut prendre une application ou créer une application de 5 microservices et les donner à une équipe dédiée et puis la semaine d'après de les donner à une autre équipe. Et comme tout est documenté, qu'il y a du code et qu'il y a des tests partout, en fait ça permet de réorganiser la gestion des infrastructures beaucoup plus facilement que quand c'est une application qui date d'il y a 10 ans, qui est hébergée sur un serveur qui n'a pas été mis à jour depuis 5 ans et le seul gars qui sait la gérer, il part en retraite dans 6 mois, quoi.
Ouais, il y a une loi dans l'informatique qui s'appelle la loi de Conway qui dit que la structure de vos applications va représenter la structure de votre organisation dans la boîte. Et donc là, ce que tu décris...
Attends, ça s'applique à Windows, ton truc ou...
Ça s'applique à pas mal de choses.
Largement.
Mais du coup, quand tu fais des microservices, ce que ça veut dire, cette loi, la corollaire, c'est que finalement, quand on est au sein d'une même équipe ou au sein d'un même département, bon, on arrive à peu près à communiquer. Quand on va devoir sauter d'un département à l'autre ou d'une équipe à l'autre, c'est là où ça va être il va y avoir un peu plus de friction. Donc, quand tu découpes, quand tu changes ton organisation de verticale avec des devs, ensuite des mecs de la sécu, ensuite des mecs des opérateurs, etc., que tu le fais en approche microservice, c'est-à-dire un morceau où une équipe est responsable de un ou un certain nombre de morceaux indépendants, et ben là où ça va être, il va y avoir plus de boulot, c'est la communication entre ces microservices. Donc ça change les problématiques. Donc pour moi, microservice, c'est un peu comme quand tu changes ton organisation dans une boîte, là, un nouveau CEO arrive, ils disent non, il faut faire par fonction maintenant, c'était la merde avant. Bon, bah finalement, ça change les problèmes, quoi.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'AWS, vous avez parlé un peu de Docker et de containerisation, peut-être un peu de VMware. Comment une organisation qui utilise des serveurs physiques ou alors des ESX de VMware passe, du coup, se transforme vers du DevOps, puisque vous ne parlez pas de virtualisation, vous parlez d'apéisation et d'automatisation de code as infrastructure pour l'automatisation et la génération à la volée.
Je pense que l'idée de base, qui est la plus importante, c'est que les, faut passer de l'idée qu'un serveur, c'est ce flocon de neige parfait qu'il faut garder en parfait état pendant 5 ans et qu'il ne faut surtout pas remplacer parce que c'est le plus important serveur de, de l'infrastructure, à l'idée que n'importe quel serveur, n'importe quel système peut être détruit et recréé à n'importe quel moment. Donc c'était l'idée de base de AWS qui le poussait énormément il y a 6 ou 7 ans parce qu'en fait leur infrastructure était super instable et donc les serveurs se crachaient en permanence. Donc en fait ils poussaient l'idée que les opérateurs devaient construire leur infrastructure selon l'idée que tout allait se casser la figure éventuellement. Le Chaos Monkey de Netflix c'était ça, et que les systèmes devaient pouvoir se recréer automatiquement. Quand on a des serveurs physiques, en fait l'idée c'est de dire les serveurs physiques en tant que tels sont pas importants, on peut les détruire, on peut en mettre des nouveaux, on leur donne une image de base, on leur donne un rôle de base, peut-être on les met dans un VLAN particulier, et après toute leur configuration, leur gestion est automatisée, donc soit par des scripts, soit par Ansible, c'est un bon exemple. Si c'est du VMware, je pense que maintenant VMware a une API, donc on peut créer des VM de manière programmatique avec des scripts.
VMware sont même intégrés avec OpenStack maintenant. Tu peux piloter tes VM depuis OpenStack.
Voilà, ou d'utiliser OpenStack qui en fait refait un peu ce que fait AWS mais sur un outil open source, quoi. Donc il y a la possibilité de faire du DevOps en interne dans des infrastructures que l'on contrôle complètement. L'idée c'est pas tellement de passer des serveurs que l'on contrôle à des serveurs que l'on contrôle pas. L'idée c'est plutôt de passer des serveurs que l'on gère à la main à des serveurs que l'on gère avec des programmes en fait.
Mais là encore, démarrer une étape par étape. Donc, commencer par à ce que tout le monde soit. Commencer par les hommes, les femmes. Construisez vos process. Soyez d'accord ensemble. Faites une culture où vous communiquez et vous travaillez ensemble plutôt qu'avec des fonctions séparées. Ensuite, vous allez pouvoir vous attaquer à la plateforme en disant même si j'ai des serveurs physiques, je vais mettre ma couche là, comme on en a parlé hein, juste avant. Et voilà. Et petit à petit, rajouter des briques en plus, rajouter cette idée des tests canaries, du bleu vert. Alors vous avez red blue en termes d'attaque, mais dans les déploiements, on peut faire aussi du bleu et du vert. C'est-à-dire j'ai la version de l'appli, j'ai la version d'avant de l'appli, donc chacun a une couleur. Et au cas où, si je me suis planté, je suis capable de revenir à la version d'avant, puisque les deux sont déployés en même temps potentiellement. Voilà, il y a pas mal de petites choses que vous démarrez doucement. Et itérer, alors démarrer avec une équipe doucement et puis grossissez, partagez et après utiliser les plateformes les plus dynamiques une fois que vous serez au point. Mais c'est pas la peine de commencer en disant il faut absolument que je passe sur AWS et puis j'ai résolu mon problème. C'est pas du tout ça l'idée.
Sur la partie humaine du problème, c'est quelque chose que je vois beaucoup en discutant avec des ingénieurs sécurité dans d'autres organisations, parce qu'il y a beaucoup de compétences DevOps qui sont développées par les équipes de dev, par les équipes d'administration, et les équipes sécurité arrivent derrière et tout leur contrôle, tout leur système de sécurité qui existait avant DevOps ne marche plus. Et il y a ce moment de panique où j'ai passé 10 ans à construire l'infrastructure de sécurité parfaite et il faut tout mettre à la poubelle. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée pour les équipes sécurité de commencer juste à faire du DevOps, peut-être même en dehors de l'infrastructure, juste pour se familiariser avec les concepts de pipeline, d'intégration et de déploiement continu, de systèmes éphémères et de déploiement bleu-vert comme ça, pour que les équipes sécurité vraiment se familiarisent avec cette façon de penser vraiment, et pour après pouvoir commencer à écrire des contrôles de sécurité qui rentrent dans ces infrastructures DevOps.
Rassure-moi quand même, le responsable sécurité, il continue à t'imposer une longueur de mot de passe même quand tu fais du DevOps, non ?
Ouais, pourquoi pas, ouais.
Mais non, mauvaise réponse, il faut faire du two-factor sur GitHub, le mot de passe s'est dépassé.
Effectivement, il faut faire du two-factor. Donc on fait du two-factor partout. D'ailleurs, DevOps, beaucoup de systèmes de gestion des infrastructures supportent le two-factor. Tu peux faire du two-factor avec la ligne de commande de AWS. On va même plus loin en faisant non seulement du two-factor sur GitHub, mais aussi en faisant de la signature de commit. Donc par exemple, on demande que les développeurs signent tous leurs commits avec leur clé PGP. Alors on va pas rentrer dans le débat de PGP, mais et on essaie de vérifier ces commits plus loin dans le pipeline. Comme ça, si quelqu'un arrive à garder, à trouver un accès GitHub et arrive à pousser des commits, et ben on peut potentiellement détecter les commits qui sont pas signés.
Loïs, tu voulais réagir hein?
On a parlé, justement on parle en fait des équipes sécurité qui sont intégrées vraiment dans la partie DevOps, surtout la partie test, rédaction de test, etc. Est-ce que dans le DevOps on peut aussi aller plus loin en disant que après le déploiement de ces applications, je sais pas, intégrer le SOC, des choses comme ça, en gros dès qu'on détecte des choses, etc. Est-ce qu'on va un peu plus loin dans le DevOps avec les équipes sécurité? Est-ce que c'est uniquement sur les tests, etc. ou on va aussi après le déploiement et est-ce que c'est possible?
L'intégration elle est... Ça c'est vraiment sur la collaboration humaine. Moi ce que je préfère c'est d'avoir les équipes sécurité intégrées directement dans les équipes de développement et d'opération. Alors il y a ce concept de l'organisation, l'organigramme de l'équipe sécurité, qu'il faut que ce soit rattaché à quelqu'un qui ne soit pas forcément le DSI, qui soit le directeur financier ou le directeur juridique ou quelque chose comme ça. Moi je ne suis pas forcément fan de ça, j'aime bien être directement à côté des équipes d'opération, des équipes de dev. Comme ça, ça nous permet de travailler vraiment sur la prod en fait. L'idée c'est que l'équipe de sécurité doit faire partie de l'équipe du produit. Donc s'il y a deux développeurs, trois ops et une personne de qualité, et ben on va mettre une personne de sécurité et ce groupe-là forme l'équipe produit du site web.
Christophe, tu avais un commentaire?
Oui, parce que j'ai l'impression quand même que il faut une sacrée maturité pour les équipes pour être capable de voir automatiser, d'avoir une réflexion en amont. Et souvent, on rencontre dans la nature des gens qui appellent DevOps le fait de tout faire en route et de patcher la prod. Est-ce que finalement, c'est pas les mêmes qui avaient considéré que agile, ça voulait dire je fais ni doc ni spec et je code comme un cowboy? Le décalage entre ce qui se trouve dans des organisations qui sont très matures, comme éventuellement Mozilla et Red Hat, hein, mais ou aussi les GAFA, et ce qu'on trouve dans les SS2I, il est colossal là-dessus.
Ouais, moi je crois que le risque, le pire risque, c'est un peu classique, c'est un peu comme plein d'autres choses, c'est les gens qui vont démarrer par les outils, ils disent non, mais je veux cet outil pour être DevOps, sans commencer par ce qu'on a dit, c'est-à-dire les gens, et puis les process et la culture. Mais je pense que si tu démarres doucement par les gens et les process, tu pourras faire des bêtises, mais t'en feras pas plus que si tu faisais pas de DevOps, je pense. Par contre, ouais, si ton CEO t'a dit que tu devais faire du DevOps et donc d'un coup, en 15 jours, t'as été renommé de développeur à DevOps et que, je sais pas, t'as mis un serveur Jenkins dans un coin sans regarder comment ça marchait, parce que vu qu'il y a un serveur, c'est bon, oui, là, ça va pas. Mais je suis pas sûr que vraiment il y ait un besoin de maturité. Enfin, la maturité, elle va arriver en fonction du travail de l'équipe, quoi. C'est vraiment, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais.
Mais si tu as été formé en physique chimie, que du jour au lendemain tu as fait 3 mois de formation à Java, que tu es développeur, que tu connais pas le WASP, là on parle de compétences, qu'est-ce que t'en penses?
Enfin, de toute façon, il y a toujours cet aspect de... tu prends des gens incompétents, tu leur demandes de faire des choses compliquées. Bon, ça marchera pas. Hein. Que ce soit DevOps ou pas DevOps, ça va être horrible au final. Peut-être un problème de DevOps, c'est que c'est assez nouveau. Ça a pris un peu de temps à se développer. Les personnes qui s'y sont intéressées, c'était souvent des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et ils ont fait beaucoup d'erreurs de jeunes. Donc c'est vrai que l'exemple typique du curl pipe bash pour installer un truc, c'est exactement ça, hein. C'est des gens qui ne connaissaient pas forcément les 20 ans d'expérience de packaging et de signature des paquets que les vieux routards connaissaient. Mais maintenant,
ça pourrait être pire, ça pourrait être curl pipe sudo bash.
Ouais, tant qu'à faire à ce niveau-là, autant l'installer en route. Mais ça commence à changer, on voit que ça se professionnalise plus. On voit vraiment les nouveaux outils estampillés DevOps qui s'intéressent, par exemple, à la signature, qui s'intéressent à l'intégration de la crypto en faisant ça bien. Donc ça grandit, ça, vraiment c'est une question de maturité, hein, comme Emmanuel disait, c'est des choses qui vont s'améliorer au fil du temps. Les gens vont aussi s'améliorer au fil du temps, ceux qui ont commencé DevOps il y a 6 mois, forcément ils vont faire des erreurs, mais ceux qui ont commencé il y a 4 ou 5 ans, on voit vraiment une grosse différence dans la façon de penser, la façon d'approcher ce qui est vraiment de la sécurité à ce niveau-là, quoi.
Et justement, en termes de sécurité, quels sont les inconvénients de DevOps?
L'inconvénient principal, en fait, c'est cette idée du pipeline qui est vraiment une glue entre plein de composants différents. Donc on part de la machine du développeur, on va vers GitHub, puis après on va vers un outil de CI comme Jenkins ou CircleCI, Travis CI, Docker Hub rentre là-dedans. On a peut-être un autre Jenkins, puis une infrastructure. Donc ça fait beaucoup de choses différentes à sécuriser. Quand avant, on avait vraiment peut-être qu'une infrastructure qui soit protégé derrière un firewall, et c'était un périmètre assez simple à gérer. Maintenant, tout est un peu connecté à l'internet et il faut faire de la gestion des comptes, il faut faire de l'audit, donc il faut essayer de trouver les logs. C'est l'inconvénient du DevOps, en fait, c'est que c'est un peu plus le bazar que quand on avait tout sous son contrôle. Donc c'est vrai qu'il faut réapprendre à gérer ça.
Par contre, là, tu parles bien de produits, hein, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, et donc d'intégration d'équipe pour suivre le produit. Mais en dehors de ça, tu as toujours des équipes plus globales dans l'entreprise qui assument les politiques globales, qui donnent les directions et les bonnes pratiques et choses comme ça.
Après, il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect vraiment sécurité de l'information de manière globale, donc qu'il soit plus analyse de risque, qu'il soit plus ou bonne pratique en termes de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en dehors de DevOps. Sur la partie vraiment gestion du produit, gestion de l'application, on a des équipes qui soient dédiées au DevOps, donc que ce soit pour les développeurs, les opérateurs, la sécurité, la qualité, les gestionnaires de projet, tout ça. C'est vraiment des gens qui font partie, qui sont intégrés dans ces équipes DevOps. Et ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple, dans une infrastructure classique, on va avoir une équipe firewall qui va être une équipe dédiée, peut-être une petite partie de l'équipe réseau qui s'occupe de tous les firewalls. Et donc l'équipe de dev ou l'équipe d'administration, elle doit aller demander à l'équipe firewall d'ouvrir une route. En DevOps, ça ne marche pas comme ça. Comme tout est géré par du code, en fait, ça va être l'équipe d'opération qui va directement écrire l'ouverture d'une nouvelle route de firewall. Donc sur AWS, ça s'appelle un security group et ça va être géré, ça va être détruit ou ouvert quand le code qui gère l'infrastructure s'exécute. Et donc on n'a plus vraiment cette notion d'équipe qui soit détachée, très éloignée les unes des autres et qui participe toutes au déploiement. C'est des petits groupes vraiment centralisés.
Après, ça peut dire que t'as pas des choses transverses, notamment, je sais pas si t'as des... Alors moi, je peux plutôt parler du côté dev, mais des règles d'architecture ou de cohérence que tu veux avoir au niveau de ton SI. Bon, après, ça reste... comment est-ce que tu fais descendre cette information-là dans tes équipes? Donc, tu as le même problème que tu avais avant. Là, tu vas peut-être pouvoir détacher quelqu'un pendant quelques semaines dans une des équipes, et cette personne-là va passer d'une équipe à l'autre. Comme les cycles sont relativement courts, il va pouvoir... faire l'expérience de l'application en, mettons, 3 semaines, si on fait l'approche Scrum classique, et puis donner les infos au fil de l'eau pendant que l'équipe travaille. C'est une des options. Après, il y a plein de... Enfin, ça change pas tes problèmes d'organisation, c'est pas une baguette magique. Hein.
Nous, on fait ça un peu en sécurité, où au sein de l'équipe sécurité, on va décider vraiment de la prochaine étape pour la sécurité de l'infrastructure. Donc récemment, on s'est dit qu'on voulait que tous nos sites aient une Content Security Policy. Donc c'est un peu difficile à écrire, les devs ne savent pas forcément comment l'écrire ou par quel bout le commencer. Et donc on a en centrale, vraiment au sein de l'équipe sécurité, travaillé sur l'approche. Et puis après, les membres de l'équipe vont aller travailler avec une équipe particulière, un peu en s'intégrant dans l'équipe pendant plusieurs semaines, à essayer de comprendre le code de l'application, essayer de voir comment on peut écrire un patch pour intégrer CSP. Donc plutôt que d'être détaché et d'envoyer un peu des ordres aux équipes de dev, on essaie de s'intégrer au sein des équipes de dev et de travailler avec eux. Et comme en fait c'est très simple de recréer un environnement de test, comme tout est automatisé, ça nous permet aussi très facilement pour nous... les gars de la sécurité ou qui connaissent pas forcément tous les détails de l'application, de se créer un environnement de test sur lequel on peut bidouiller et puis commencer à écrire nos patchs.
Tu peux expliciter Content Security Policy ?
Content Security Policy, c'est un système de gestion des permissions, essentiellement des permissions sur les composants d'une application web. Par exemple sur le JavaScript ou sur les composants externes qui peuvent être chargés comme les images ou le CSS. Et donc cette policy, elle est décrite dans un header HTTP qui est renvoyé par l'application au navigateur. Le navigateur lit la policy et l'applique au site. Donc par exemple, si la policy dit que le site a le droit de charger un JavaScript externe pour charger le JavaScript de Google Analytics, eh bien le navigateur va autoriser ce chargement. Par contre, si quelqu'un essaie d'injecter du contenu JavaScript dans une page et que la policy ne l'autorise pas, ça va être bloqué. Donc CSP, c'est très 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 utile pour bloquer les attaques de type cross-site scripting. Et comme c'est ce qu'on voit énormément dans beaucoup d'applications, du stored XSS, et bien ça nous permet de limiter vraiment ce type d'attaque.
Au niveau de l'évolution du DevOps, est-ce que vous voyez concrètement que, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, on va... beaucoup de sociétés partiront sur du DevOps, vous pensez que c'est juste une mode, ou alors vous pensez que bah, ça va être plutôt 50-50, ça va vraiment dépendre du type de société?
En fait, tu vois, ce que tu vois, c'est que tu as plusieurs facteurs en fait. Tu as des boîtes qui ont du mal à recruter des devs corrects parce qu'ils sont tellement sclérosés en termes de process que... ils s'enfuient comme les rats sur un navire qui est en train de couler. Et du coup, s'engager dans une approche beaucoup plus itérative comme ça, c'est aussi essayer de rapatrier des gens plus compétents. Tu as aussi beaucoup, beaucoup de boîtes, y compris les grosses, qui sont en train d'avoir très, très peur de Uber ou du simili Uber dans leur industrie et qui veulent être beaucoup plus dynamiques sur leur business model, et ça descend jusque dans leur infrastructure et dans leur développement. Et du coup, ça arrive que ça soit poussé aussi par en haut, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à ça, mais c'est aussi un outil pour rendre le business beaucoup plus dynamique. Donc, si tu es dans une entreprise monopole, peut-être que tu as moins de pression pour le faire, mais peut-être que tu as envie de le faire pour avoir des gens plus compétents. Si tu dis que tu es le prochain chauffeur de taxi, mais dans ton industrie, tu vas peut-être accélérer ce genre de choses. C'est mon avis hyper personnel. Hein, mais...
Ça réduit les coûts, le DevOps, ou pas? C'est une question très bête, mais...
Ça quoi?
Parce que ça réduit les coûts.
Ouais, absolument, ouais. Ouais, à long terme, ouais, même à moyen terme, c'est d'ailleurs l'un des premiers bénéfices de DevOps, hein, c'est que ça réduit énormément les coûts. Enfin, il suffit de voir le temps que prend un déploiement en DevOps et le temps que ça prend quand on le fait à la main, hein, on parle de jours.
Disons que tu passes de 80 personnes à 14, donc ça te réduit des coûts déjà immédiats de personnel, et puis ça te réduit des coûts d'infrastructure aussi.
Et on le voit, bah, on en revient à l'exemple d'Instagram que je donnais au début de l'émission, où une toute petite équipe, vraiment, hein, je crois qu'ils étaient moins d'une dizaine, c'est créer une entreprise qui valait $1 milliard, quoi. Avec juste un tout petit groupe de personnes et beaucoup d'intégration des techniques DevOps, ils ont réussi à créer une entreprise qui pouvait se comparer à des géants de l'internet comme Flickr, qui avaient des ressources quasiment illimitées en comparaison. Donc ça, je pense que ça a été vraiment l'électrochoc où beaucoup se sont rendu compte que l'aspect DevOps, l'aspect automatisation et fluidification des cycles de release, c'était vraiment un gain économique et un gain de compétitivité, quoi.
Ouais, donc je rajouterais que ça te permet de faire beaucoup d'expérimentations à des coûts beaucoup plus faibles, parce que si pour tester littéralement il faut que tu commandes un serveur chez Dell, etc., etc., ben, t'as perdu. Alors que si tu veux tester quelque chose et que tu peux faire ça en 10 jours, 3 semaines, 1 mois, commencer à avoir du retour parce que tu as mis des métriques qui te vont bien et pouvoir décider si tu, vraiment tu veux investir là-dedans ou pas, c'est un outil juste génial.
Mais WhatsApp a fait mieux qu'Instagram. Ils géraient 1 milliard d'utilisateurs avec 50 personnes. Leur secret, c'est qu'ils utilisaient Erlang.
Ouais, et puis ils l'ont fait 3 ans après. Donc bon, il y avait plus d'expérience déjà, hein. Il y avait plus de maturité. Mais c'est vrai que, enfin, ce que dit Emmanuel sur l'expérimentation, c'est aussi important pour les équipes de sécurité. C'est qu'on peut, quand une équipe de sécu veut aller tester un truc, généralement le retour des devs, c'est non, ça va tout casser, la disponibilité, on peut pas se permettre de tester, il y a pas moyen, quoi. Alors qu'en DevOps, en fait, c'est très très simple d'aller demander d'avoir un environnement de test et en 3 commandes, cet environnement de test, il est disponible aux équipes de sécu. Elles peuvent aller jouer avec, ajouter des contrôles, essayer de faire du pentest ou ce genre de choses, sans aller abîmer la prod, quoi. Donc, c'est aussi un outil qui est très bénéfique, quoi.
Bon, après, un petit mébol, hein, parce que l'évaluation d'Instagram et de WhatsApp, c'était un peu n'importe quoi. Donc, je ne suis pas sûr que c'est DevOps qui a fait que ça valait ces milliards. Hein.
Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que s'ils n'avaient pas fait de DevOps, ils n'auraient peut-être jamais eu autant d'utilisateurs, parce que le temps qu'il leur fallait de commander les serveurs, entre le moment où on va sur le site de Dell et le moment où le serveur il est dans un data center, c'est 6 mois, quoi.
Après, je vais donner un petit bémol quand même, c'est il y a des startups qui sont crashées, et il y en a une notamment il y a quelques mois ou peut-être un an qui a tout filé, toutes les données qu'ils avaient. Et en gros, donc leur coût numéro un, c'était les développeurs, et leur coût numéro juste derrière, c'était leur coût AWS. Et que, en fait, ils disaient peut-être que si on était revenu sur un truc un peu plus classique, voire à héberger chez nous, on n'aurait pas cramé autant de cash aussi vite et on ne serait pas tombé.
Petite question. Comme ça, 27 001 et DevOps.
Tu veux pas qu'on parle des BIOS non plus ?
Et BIOS, on a dit que c'était avant.
Euh, 27001 et DevOps. Pourquoi pas ? Après, il n'y a rien dans 27001 qui soit contraire à DevOps. Hein. Je dirais que beaucoup des pratiques que l'on voit recommander dans 27001, en fait, c'est des pratiques qui font déjà partie de DevOps. Enfin, la possibilité de mettre à jour ces systèmes rapidement, c'est quelque chose qui vient même pas des équipes sécurité, en fait. C'est ça qui est intéressant avec DevOps, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont juste des pratiques d'administration qui bénéficient à la sécurité. Je connais pas beaucoup d'organisations qui ont essayé d'intégrer 27001 dans leur process DevOps, essentiellement parce que c'est un petit peu les entreprises DevOps essaient de rester assez légères en termes de coût opérationnel et de complexité, et que c'est avec 27001, c'est pas forcément le framework le plus léger qui existe. Mais pourquoi pas, hein. Moi, je sais qu'on en a parlé. Mozilla a essayé de regarder ce qu'on pouvait prendre de 27001 et puis essayer de travailler avec, mais on l'a pas encore fait.
Bon, sinon 27001, c'est pas un nom premier, c'est 13 fois 2077.
Tu l'as fait de tête ou tu l'as regardé
De tête.
Évidemment,
de tête. Et quand même.
Et pour continuer sur les réglementations ou les certifications marrantes, le règlement européen sur la protection des données personnelles, quand on a des données personnelles dans ces développements et pas dans les algorithmes, comme certains ministères français.
Bon, voilà, le message personnel est passé.
Je pense que tu confonds un peu, parce que RGPD, ça s'intéresse vraiment aux données, et ça ne s'intéresse pas du tout au code. Par contre, je pense que la question serait plus pertinente par rapport à des processus comme ITIL ou
Nico, non, parce que dans le règlement européen, il y a Secure by Design et il y a Privacy by Design, où on parle justement de construire des applis correctes et qui seront managées ça correctement. Donc je ne confonds pas.
Ouais, je pense que, de toute façon, des données de prod dans des environnements qui ne sont pas de prod ou qui soient en dehors de la base de données de prod, c'est toujours une mauvaise idée. DevOps ne change pas ça. Ce que l'on voyait peut-être avant, c'est que pour pouvoir faire du test entre la pré-prod et la prod, il fallait prendre les bases de données de prod et puis les migrer vers la pré-prod. Bon, en DevOps, on fait pas ça. Hein. Ça, c'est vrai que c'est une... non, interdit. On sort jamais les données de l'environnement de prod. Donc, je pense pas que DevOps soit mieux ou pire que ce qu'on faisait avant là-dessus. Hein.
Tu fabriques des jeux de données ou tu anonymises ta prod?
Un peu des deux. Ça dépend des applications. Je sais pas, peut-être qu'Emmanuel va avoir une perspective différente. Tout ce qu'on fait, c'est que si les bases de données deviennent vraiment complexes et qu'on ait des types de données très difficiles très difficiles à générer, et ben on va essayer d'anonymiser des données de prod en pré-prod. Mais sinon, la plupart du temps, on génère des données directement.
Et pour répondre à ta question, le DevOps, c'est l'ami de la donnée personnelle, parce que comme toutes les lignes de code qui touchent la donnée sont passées dans un pipeline, ont été revues, etc. Tu peux garantir l'accès, enfin, tu as un certain niveau de contrôle sur l'accès aux données. Si tu es dans une architecture classique où tu as un DBA, tu as un admin Windows, etc., le mec se log en RDP sur ta machine et il copie ton fichier de base de données via un volume snapshot, en gros, toutes tes données personnelles sont parties dans la nature et tu ne le vois jamais. Quoi.
Et
donc,
peut-être
quand il n'y a que le code qui touche la donnée, ça te donne vraiment un niveau d'assurance sur ce qu'il fait avec les données, contrairement à des procédures plus classiques où tu ne sais pas du tout qui a accès à la donnée, en fait.
Et pour aller plus loin, il y a des environnements DevOps qui sont tellement automatisés qu'on vient même à enlever les accès SSH au système, quoi. Parce qu'il n'y en a plus besoin, comme tout est contrôlé par du code. Donc ça permet en fait d'aller jusqu'à dire que même les admins ne peuvent pas aller se connecter au système de prod ou aux bases de données de prod pour aller bidouiller les données de prod. Bon, il est toujours possible pour un développeur d'écrire une ligne de code qui va aller uploader toute la base de données vers un site externe, hein. Ça c'est toujours un risque. Mais justement, comme il y a des contrôles intermédiaires dans le pipeline, ça permet d'éviter ça.
Ok, en conclusion.
Attends, en conclusion, on va... Alors, DevSecOps, parce qu'on n'a pas eu la réponse, là.
C'est DevSecOps ou c'est SecDevOps?
Ouais, alors, je sais pas, en plus.
J'aime pas ce terme, ouais. Je...
SecOps?
Ouais, ou SecOps. Ouais, bon, il y en a plein, des termes.
OPSEC, c'est
bon. L'idée, c'est... Ouais. J'ai été dans une équipe qui s'appelait OPSEC, on m'a appelé SecOps, CloudSec, bon, c'est un peu toujours... l'idée étant, moi ce que j'aime pas dans ce terme-là, c'est que c'est un rajout de sécurité au-dessus de DevOps, alors qu'en fait, on n'a pas DevOps QA, quoi. C'est la qualité, elle est dans DevOps directement, on n'a pas créé un nouveau mot pour ça. Et pour moi, c'est juste DevOps, quoi. Ça fait partie de... Au sein de DevOps, il y a la sécurité. On n'a pas besoin de l'appeler SecDevOps, c'est juste DevOps. Bon, après, si les gens ont besoin d'un titre, SecDevOps, ça m'a l'air d'être le terme qui fait le plus référence en ce moment. Bon, moi, je préfère juste utiliser DevOps. Et puis, on fait tous de la sécurité.
Eh ben, ça me semble être une excellente conclusion. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose?
Non, parce que ce que j'avais en tête, c'est de me dire, du coup, tous les DevOps doivent écouter nos limites sécu, quoi. Voilà, c'est tout.
Et ça m'a l'air pas mal.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet?
Ouais, alors moi je suis sur emmanuelbernard.com ou alors sur Twitter, @emmanuelbernard.
Et surtout, je rappelle à nos auditeurs le podcast Les Cascodeurs, donc ils peuvent retrouver dans leur lecteur de podcast habituel.
Voilà, tous les 15 jours.
Je crois qu'il y a un livre en préparation aussi, non ?
Ouais, donc ça s'appelle Securing DevOps, chez Manning, c'est en anglais, j'espère que ce sera fini au printemps prochain. Faut que j'écrise des chapitres, mais il y a déjà 6 chapitres d'écrits. Et moi, je suis sur Twitter à jvehent, V-E-H-E-N-T, et ou sur j.vehent.org.
Et Manning a un process qui s'appelle le MIPS, je crois, si ça n'a pas changé de nom, où on peut avoir le bouquin avant qu'il soit fini. Donc, vu que les quelques chapitres que tu as déjà écrits, les gens peuvent les lire et même te faire des retours pour que tu les améliores. Donc, les gens qui sont vraiment intéressés peuvent aller sauter le pas déjà.
Voilà, et on parle déjà beaucoup dans le bouquin de toutes les problématiques qu'on a abordées dans le podcast. Donc, si vous êtes intéressé, c'est une bonne lecture.
Parfait. Bon, eh bien, un grand merci de votre participation.
Ben merci, merci à vous.
Au plaisir.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.